le magazine des Nations Unies.
Plus de 5 millions de Congolais réfugiés dans leur propre pays, ce qui place donc la RDC en première position sur le continent en ce qui concerne les déplacés internes. La représentante du ACR en RDC, Lisa Wa, l'a affirmé au cours de la conférence de presse des Nations Unies à Kinshasa. Processus d'aide communautaire en Ituri et dans les deux Kivu, la Banque mondiale annonce la première partie de l'enveloppe pour 2021, annonce faite mardi à partir de Goma au Nord Kivu, au cours d'une séance de travail entre une délégation de cette institution financière internationale et le gouverneur Karli Nzanzu Kativita. Enfin, autre appui financier, c'est celui de la Suède. 400 millions de dollars américains, c'est le fonds que ce pays de la Scandinavie va mobiliser pour assister la RDC dans son programme de développement de 2021 à 2025. Dans cette édition, l'ambassadeur suédois est l'invité du magazine des Nations Unies. Ce sont là les grands titres de ce magazine, le développement dans quelques instants.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour. Plus de 5 millions de Congolais vivent dans leur pays comme déplacés internes, ce qui met la RDC en première place sur le continent africain, selon Mme Lisa Wa, représentante du ACR en République démocratique du Congo. Mme Awa était l'invitée de la conférence de presse des Nations Unies tenue mercredi 17 février 2021 à Kinshasa. Suivez les propos de la représentante du ACR.
La RDC compte plus de 5 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays, ce qui représente l'une des plus grandes populations déplacées au monde et la plus importante en Afrique. Le ACR travaille en étroite collaboration pour aider le gouvernement à venir en aide à ces personnes déplacées en RDC. Il dirige particulièrement la réponse en matière de protection et d'abri et co-dirige, respectivement avec l'OIM et l'OPAM, la gestion de la coordination de camps et le cash. Bien que la superficie de la RDC soit vaste, la terre est contrôlée par des acteurs qui se trouvent hors de la région. Déjà, ceci rend la vie difficile aux Congolais et complique davantage les opportunités pour les déplacés d'avoir leur propre terre pour cultiver ou construire leur maison.
Restons encore dans ce chapitre. Au sud Kivu, 182 réfugiés et demandeurs d'asile burundais ont été rapatriés mercredi dans leur pays par la frontière de Kavimvira à Uvira. C'était le deuxième convoi de l'année après celui des 141 Burundais rapatriés la semaine avant par le ACR. D'autres détails avec Fiston Ngoma.
Des sources frontalières affirment que ces Burundais candidats volontaires au rapatriement ont passé leur première nuit ce mercredi au centre d'accueil de Kajaga au Burundi en attente d'une réintégration. Beaucoup parmi ces réfugiés dénoncent des mauvaises conditions de vie dans leur camp de réfugiés en RDC. Cité par le bulletin Ongea Yaga, un quotidien de la région, la directrice régionale du ICER dans East Africa, Corne d'Afrique et CIRGL, Mme Clémentine Kweta Salami, a indiqué que le ICER et ses ONG partenaires dans le pays des Grands Lacs, dont la RDC, le Rwanda, la Tanzanie et l'Ouganda, ont besoin de 222,6 millions de dollars américains pour pouvoir apporter une aide humanitaire essentielle aux réfugiés burundais. D'après cette autorité onusienne, un soutien international accru est crucial pour garantir une meilleure protection et des soins à plus de 315 000 réfugiés burundais entassés dans ces quatre pays voisins. À Uvira et Fizi, la CNR et le ACR comptent rapatrier 6 000 réfugiés burundais au cours de cette année. D'Uvira, Fiston Mamayabala, Radio Kapi.
Autre nouvelle, la Banque mondiale a annoncé cette semaine le décaissement des fonds sur le financement du programme DDR communautaire en Ituri et dans les deux Kivu. L'annonce a été faite par une délégation de la Banque mondiale elle-même en tournée dans cette région. C'était au cours d'une séance de travail avec le gouverneur du Nord Kivu, Karli Nzanzu Kasivita, Bernadette Nyangi.
Pour la chef de bureau de la Banque mondiale à Goma qui conduit cette délégation, il ne reste plus que quelques formalités administratives à remplir. Vraisemblablement, les fonds seront disponibles en milieu de cette année, notamment sur le volet des DER basé sur les communautés et la stabilisation de l'Est de la RDC, dit Madame Mona Nibour.
Dans ce premier projet, nous proposons de bâtir sur le succès de certains programmes qui ont été déjà expérimentés, donc de travailler avec les comités locaux de développement et de paix pour aussi financer les priorités des communautés avec une vision de stabilisation, mais aussi de regarder les questions de réinsertion économique des ex-combattants dans la communauté. Donc on a besoin des partenaires comme le gouvernement congolais et la MONUSCO pour la partie en fait de démobilisation. Nous avons discuté des premiers montants, mais oui, on a des fonds qui sont réservés à cette approche.
Rappelons qu'une promesse de 50 millions de dollars américains avait déjà été faite par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour le financement de cette initiative de démobilisation et réinsertion communautaire des ex-combattants. Selon le coordonnateur provincial de DDRC au Nord Kivu, une dizaine de groupes armés actifs dans les territoires de Lubero, Rutshuru, Masisi et Walikale sont déjà disposés à s'y rendre. Il n'y a que la prise en charge du processus qui faisait défaut, dit-il. Goma, Bernard Ngangi, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le 11 février dernier, le monde a célébré la Journée internationale des femmes et des filles de science. Cette année, l'événement a été placé sous le thème « Les femmes scientifiques à la pointe de la lutte contre le Covid-19 ». Inventrice du robot roulage, l'ingénieure Thérèse Isa Kirongozi s'est également engagée dans ce combat grâce à une autre invention qu'elle a mise avec son équipe au service du combat contre la pandémie. Le magazine des Nations Unies revient sur l'entretien que l'ingénieur nous a accordé dans le cadre de cette journée. Madame Thérèse Isa Kirongozi, bonjour.
Bonjour Monsieur Honoré.
Le monde célèbre ce 11 février, comme chaque année, la Journée internationale des femmes et filles des sciences. Cette année, la journée a pour thème « Les femmes scientifiques à la pointe de la lutte contre le Covid-19 ». Vous êtes une femme, une ingénieure et on vous connaît plus par le robot roulage qui est le produit de votre conception, de vos recherches. Mais vous avez aussi inventé un lave-main automatique dans le cadre de la lutte contre Covid-19. Que pensez-vous du thème de cette journée cette année?
Je vous remercie beaucoup, monsieur le journaliste. Pour moi, c'est le moment d'où nous, les femmes scientifiques, donc c'est-à-dire que nous avons choisi de faire la filière du STEM, et je peux dire sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, de faire quand même un petit bilan annuel pour savoir qu'est-ce que nous avons apporté comme notre petite contribution à notre communauté, donc dans notre domaine choisi. Donc pour moi, c'est vraiment le moment de faire un bilan.
Par rapport à ce thème-là, quelle a été votre contribution dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 en RDC?
Ok, je sais qu'il y a beaucoup de femmes en sciences qui ont beaucoup travaillé, surtout pendant la période où on avait le confinement. Moi et mon équipe Women's Technology, notre contribution était d'abord des lave-mains automatiques que vous allez voir si vous êtes à l'aéroport de Ngili, dans quelques hôpitaux comme Clinique Universitaire, Saint-Joseph et l'hôpital sino-congolais au niveau du quartier de Ngili et puis à l'hôpital Diana. En dehors de ça, avec Raissa Malou et mon équipe Women's Technology, nous avons fabriqué un respirateur d'urgence mécanique et bientôt vous allez aussi trouver dans quelques hôpitaux locaux.
Vous sentez-vous soutenu par votre entourage, l'État congolais et d'autres partenaires publics ou privés?
Bon, c'est un peu difficile parce que le soutien, bon, ça dépend aussi de qu'est-ce que nous attendons par rapport à cela. Néanmoins, je trouve qu'il y a quand même, au niveau du gouvernement, il y a un grand changement par rapport peut-être au gouvernement, en fait, avec les gens qui étaient avant. Je donne un exemple. Le président actuel, Félix Tshisekedi, il tient beaucoup à s'engager lui-même pour nous soutenir des femmes scientifiques. D'ailleurs, si nous voyons des femmes que lui-même il appelle des femmes d'exception, on est au nombre de 26, mais vous remarquez, il y a au moins plus de 7 femmes de science, c'est-à-dire il y a moi, il y a Raissa Malou, il y a Mamichio, pour ne pas citer tout le monde. Nous sommes tout autour du président pour analyser un peu comment nous pouvons booster les femmes dans le domaine du STEM, comme je viens de dire tout à l'heure. Mais nos attentes, c'est vraiment beaucoup. Et je peux dire aussi, d'abord, moi, étant que mère ou étant qu'épouse, d'abord, ce qui compte pour moi, c'est le soutien d'abord de mon mari, le soutien de mes enfants, de ma famille, et de voir aussi comment ma communauté peut aussi arriver à nous soutenir. Je donne un exemple, quand on innove, on a aussi besoin que ce que nous venons d'innover ou de créer, que les gens achètent, la communauté arrive à nous porter un plus en achetant nos inventions. Voilà, donc nous avons vraiment besoin du soutien, si je peux dire, national.
Alors, parlons de la journée elle-même. Madame est là pour but de favoriser et d'accroître la participation des femmes et des filles dans les domaines scientifiques. Quel commentaire faites-vous de cet objectif de la journée?
Ok, statistiquement parlant, nous devons savoir qu'au moins 3% des femmes ou des jeunes filles acceptent de s'orienter au programme des STEM, donc sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Donc, notre rôle est de promouvoir et être des modèles, donc nous, des femmes en sciences, d'être des modèles pour booster aussi des jeunes filles à suivre peut-être, en fait, nos pas. Mais le grand souci pour nous, en fait, c'est le gouvernement qui doit plus promouvoir cet esprit de la nouvelle technologie. C'est le gouvernement qui doit aussi mettre des moyens pour booster plus de jeunes filles dans cette filière du STEM qu'on appelle sciences, technologies, ingénierie et mathématiques.
Oui, alors trop peu de filles dans notre pays suivent les filières scientifiques et technologiques dans les écoles et à l'université. Et qu'est-ce que la société peut faire? Vous dites que c'est au gouvernement de promouvoir. Est-ce qu'on peut peut-être créer, par exemple, des bourses d'excellence uniquement pour les filles, par exemple?
En fait, pour moi, je peux dire, tout ce que vous proposez là, ce n'est pas aussi mauvais, mais le problème, c'est d'abord encourager des femmes ou des jeunes filles qui sont déjà dans cette filière. Parce que il faut savoir que on donne que ce qu'on a. Donc, si nous, le leadership dans ce domaine, on n'arrive pas à être bien encadré par rapport à notre gouvernement, ça serait compliqué pour qu'on arrive à avoir des modèles réussites. Parce que nos enfants doivent nous prendre d'abord comme des modèles réussites. Et ce sont des modèles réussis là que nos enfants doivent emboîter le pas pour dire que non. Quand je regarde Madame Thérèse Isaïe-Kirongozi, quand je regarde la femme comme Raissa Malou, quand je regarde Madame Yanjo, on voit en nous que nous avons réussi. Ok, pour que nous arrivions à réussir, c'est le gouvernement qui doit nous accompagner par rapport à nos projets, par rapport à cet esprit de créativité que Dieu nous a donné. Et je crois que ce genre de modèle doit pousser d'autres jeunes filles de s'orienter. Je donne un exemple. Aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui veulent aller faire la politique parce qu'ils voient que c'est un domaine où on réussit facilement. Donc, si je sais bien parler, j'ai l'éloquence, demain j'aurai une Jeep et demain je serai connu. Or, pour moi, je dis toujours aux jeunes que non, et là où peut-être les Congolais c'est bien faire, c'est emboîter tout le monde en politique. Or, les pays ne peuvent pas se développer rien qu'avec les politiciens. Nous devons travailler. C'est la science qui développe tous les pays du monde. On a compris que ça se développe par rapport à la science. Donc, nous devons d'abord arriver à faire des leaderships, ces modèles, que ce soit un modèle réussi, et donner aussi la chance aux jeunes filles d'emboîter le pas.
Alors, puisqu'on parle des jeunes filles, que dire aujourd'hui aux jeunes filles qui rêvent ou qui peuvent se tracer une voie dans les filières scientifiques?
Mais écoutez, aujourd'hui, en regardant seulement l'humanité et regardons qui sont les meilleurs riches, vous allez voir que ce sont des gens qui se sont donnés à la science, à la nouvelle technologie. Si on parle aujourd'hui de Bill Gates, si on parle aujourd'hui de celui qui a créé comme Amazon et tout ce monde, et vous allez voir que c'est dans le domaine du STEM que les gens commencent à comprendre que c'est là où il y a la richesse, il y a le développement économique. Donc pour moi, surtout par rapport à une jeune fille, tu seras libre de créer ton propre entreprise et ça peut aussi te donner beaucoup d'avantages peut-être par rapport à la création de richesses, c'est-à-dire que toi-même tu te crées par rapport à ton idée et comment tu peux organiser cette idée et ça devient une richesse pour toi.
Ok. En ce qui vous concerne vous-même, madame, pensez-vous que c'est facile d'être à la fois une femme des sciences, une femme de ménage et une femme d'affaires?
Bon, c'est pas facile, je peux dire, mais je ne sais pas trop. Il n'y a pas une vie facile quelque part. Si je peux dire que, bon, moi, je fais de mon mieux, Dieu m'aide pour être une mère, pour être une épouse, pour être une femme d'affaires, pour être aussi ingénieure et puis faire des recherches. C'est-à-dire, si je peux dire, mon secret, c'est d'abord la force de Dieu qui me donne et puis je sais comment donner du temps à chaque chose. C'est là où repose ma force.
Bon, dernière question, madame. À l'occasion de cette journée et son thème, les Nations Unies ont prévu ce 11 février une rencontre virtuelle des experts et expertes de différentes régions travaillant dans des domaines liés à la pandémie de COVID-19. La RDC va-t-elle participer à ce forum vous-même?
Bon, je ne sais pas si nous parlons du même forum que l'UNESCO a organisé. Donc, il y a moi, je crois, il y a Raissa Malou, il y a aussi Sandrine Lobenga. On nous a invités comme webinaire dans ce forum. Je ne sais pas si nous parlons la même chose ou c'est deux forums différents.
Madame Thérèse Isaïe Kirongozi, merci beaucoup.
Je vous remercie, M. Mar.
De l'ONU en plus bref, le représentant spécial adjoint David McLachlan Carr, en charge de la mission, a félicité le nouveau Premier ministre Samalou Kondé Kiengé pour sa nomination à ce poste. Les Nations Unies, dans leur ensemble, y compris la MONUSCO, ont hâte de travailler avec M. Samalou Kondé et le gouvernement qu'il va former pour les soutenir dans les efforts pour la stabilisation de la RDC, a déclaré à substance David McLachlan Carr. En Ituri, lancement de la radio communautaire à Manidjougou, la MONUSCO a participé à l'événement. C'était le 13 février dernier. Ce projet vise à promouvoir une paix durable et le dialogue démocratique dans la région. La MONUSCO a rénové le bâtiment qui accueille cette radio équipée par Search for Common Ground avec un appui financier du Fonds de cohérence pour la stabilisation. Enfin, une délégation conjointe de la MONUSCO, des ambassades des Suèdes et du Royaume-Uni a effectué cette semaine une mission de 5 jours à Kananga au Kasai central et à Chikapa au Kasai, une mission dans le cadre de la transition de la MONUSCO vers les agences et fonds des Nations Unies dans la région du Kasai.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
400 millions de dollars américains, c'est l'enveloppe que la Suède va mobiliser pour venir en appui au développement de la RDC de 2021 à 2025. Le magazine des Nations Unies revient avec comme invité l'ambassadeur suédois en poste à Kinshasa, Henrik Rasbrand, qui s'est entretenu avec Jean-Marc Matoaki Mofelele.
Monsieur Henrik Rasbrand, bonjour.
Bonjour.
La Suède vient de revoir sa stratégie de coopération avec la République démocratique du Congo. Un budget qui s'élève à 400 millions de dollars a été mobilisé pour soutenir la coopération allant de 2021 jusqu'à 2025. Qu'est-ce qui motive cette nouvelle stratégie?
Bon, normalement, une stratégie de coopération et développement dans le système suédois est décidée pour une période de 5 ans. Alors, cette période s'était achevée. On avait même prolongé l'ancienne stratégie avec encore une année. Alors il était temps, en fait, ce qui est normal, de renouveler la stratégie. Et c'est pour ça que le gouvernement suédois a pris une décision sur, justement, sur une nouvelle stratégie en décembre dernier.
Et parmi les domaines, il y a les droits de l'homme, démocratie, état des droits et égalité des sexes, égalité et équité dans l'accès à la santé, société pacifique, inclusive et durable. Et puis il y a un quatrième domaine en termes d'innovation, c'est sur l'environnement, les climats et l'utilisation durable des ressources naturelles. Sur terrain, ça va se passer comment dans les concrets?
Bon, dans les trois premiers domaines que vous venez de citer, la Suède est déjà présente. Alors là, dans un premier temps, il n'y aura pas forcément de grands changements. On continuera un peu notre engagement à travers différentes activités, différents partenaires. Mais bien sûr, il pourra aussi y avoir quelques changements. À travers ces stratégies, on veut renforcer les perspectives, les activités à court terme, c'est-à-dire plutôt humanitaire, à long terme coopération, développement et paix et stabilité, justement pour avoir une approche intégrée, ce qu'on appelle le triple nexus. Mais pour le quatrième secteur, qui est un nouveau secteur dans cette nouvelle stratégie à la coopération, développement, sur les questions d'environnement, climat, biodiversité et énergie, la Suède est présente à travers quelques projets, mais c'est surtout dans ce secteur-là que nous verrons un renforcement de la présence et de l'engagement de la Suède ici en RDC. Et on est justement en train de voir comment renforcer la présence de la Suède dans ce domaine-là.
Monsieur l'ambassadeur, quand on parle de la coopération suédoise en République démocratique du Congo, il y a un accent particulier qui est mis sur l'égalité des sexes, notamment la réduction de la violence sexuelle. Après ce travail d'accompagnement que la Suède mène à travers les organisations internationale ainsi que les ONG, les organisations non gouvernementales. Quel bilan faites-vous de tout ce qui a été fait? Avez-vous noté des avancées significatives dans ces domaines?
Ce qu'il ne faut pas oublier, que cet engagement, justement pour renforcer l'égalité des genres, la participation politique des femmes, et la participation des femmes dans des processus de paix, de réconciliation, la lutte contre la violence sexuelle est basée sur le genre, c'est un engagement continu et une lutte continue. Ce qui a été important pour moi de voir, pendant, je suis là depuis un an et demi, j'ai rencontré plusieurs organisations de femmes, de réseaux de femmes, partenaires qui travaillent justement dans ce domaine-là, organisations internationales et nationales. C'est justement cet engagement que je pense est important et qui aussi, je pense, montre qu'il y a un engagement qui est renforcé, il me semble, jour par jour. C'est peut-être ça le plus important.
La population congolaise vit dans une situation socio-économique difficile. L'accès à l'emploi pose encore problème. Donc, le taux de pauvreté a atteint des proportions inquiétantes. Qu'est-ce que la population congolaise peut attendre de cette coopération suédoise par rapport à cette donne?
Parlant du volet plutôt social, économique et social, on est présent à travers différents projets. Et on peut commencer par exemple le secteur de la santé. C'est peut-être le plus concret, avec un focus sur un accès équitable entre les femmes, les hommes, les filles, les garçons, et un accent sur la santé maternelle, prénatale, infantile, et aussi la formation du personnel de la santé et plus précisément aussi de sages-femmes. Mais on est aussi présent à travers des projets plutôt au niveau des communautés, différents projets intégrés multisectoriels pour assister ou accompagner les communautés à renforcer leur résilience et à travers des projets qui sont impliqués plutôt secteur santé, éducation, réconciliation, paix et d'autres questions. Et aussi agriculture durable, par exemple. Alors, différents volets, justement pour renforcer au niveau local les capacités des communautés.
Les soutiens de la Suède pour cette nouvelle stratégie va principalement être bénéfique pour quelques provinces de la RDC, notamment Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Tanganyika, Maniema, Kasai, Kasai Central, Équateur, Sud Ubangi et Nord Ubangi. Qu'est-ce qui motive le choix de ces provinces?
C'est une stratégie pour tout le pays et on regarde constamment où sont les besoins, les populations les plus vulnérables, pour aussi trouver des partenaires. Il y a plusieurs raisons, mais c'est un processus constant où on revoit là où on est présent.
Votre lecture sur l'évolution de la situation politique du pays?
Nous, on suit, comme tout le monde, bien sûr, les développements politiques en RDC pour le moment. Ce qui est important, très important pour nous, c'est de voir se réaliser ou la mise en œuvre des priorités communes, je pense, entre nos deux pays.
Notamment la lutte contre la corruption.
La lutte contre la corruption, le développement démocratique, le renforcement des institutions de l'État, l'établissement d'un État de droit, respect des droits humains, et l'égalité des genres, et l'amélioration du climat des affaires et d'autres questions.
Monsieur Henrik Rasbrun, ambassadeur de la Suède en République démocratique du Congo, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup, un plaisir.
Rendons-nous maintenant au Nord Kivu, à Beni, précisément où la MONUSCO est préoccupée par la hausse des cas de justice populaire enregistrés dans la ville et son territoire. Pour Cecilia Piazza, chef de bureau de la mission Beni Butembo Lubero, ce comportement qui va dans le sens de décourager les actions des forces de sécurité doit prendre fin. Des précisions avec Marc Marofimbo.
Cecilia Piazza, la chef du bureau de la MONUSCO Beni Butembo Lubero, a révélé ce souci lors de la séance de redevabilité organisée par le commandant de la police nationale congolaise ville de Beni ce mercredi. Devant une centaine de représentants de toutes les couches de la communauté de Beni, Cecilia Piazza s'est référée au cas de justice populaire enregistré dans la ville et territoire de Beni, précisément à Lume, dans le secteur de Rwenzori, où les officiers militaires ont été lâchés par la population. Pareil que dans la ville de Beni, où certains éléments de la police nationale congolaise ainsi que des civils ont subi le même sort. Face à cet accroissement des cas de justice populaire, la chef de bureau de la MONUSCO Beni Butembo Lubero a indiqué que c'est une préoccupation qui doit interpeller la conscience de tous. Cecilia Piazza.
Nous constatons un accroissement très préoccupant des cas de justice populaire. Nos officiers des droits de l'homme qui suivent les cas et qui documentent le cas l'ont relevé et nous sommes très préoccupés par cette tendance. C'est extrêmement préoccupant.
La police, pour sa part, a demandé à cette occasion aux leaders communautaires de sensibiliser les jeunes à ne pas se fier à ces actes, car le pays est réglementé par une loi qui exécute la justice. Le colonel François Kabemakos a également appelé les jeunes à privilégier la voie de dialogue pour régler tous les différends au sein de la communauté. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Au cours de la conférence de presse de l'ONU du mercredi 17 février dernier, Mme Lisa Wa, représentante du UACR en RDC, a répondu à plusieurs questions. Suivez l'une de ces questions et la réponse.
Jean-Pierre Nkoutou, journaliste au journal Le Phare. Quand on parle de problèmes de réfugiés, il y a en fait une action qui concerne trois parties. Il y a le pays où proviennent les réfugiés, il y a aussi le pays d'accueil et il y a aussi le HCR. Donc il y a trois parties qui doivent se mettre ensemble pour résoudre ce problème. Alors, est-ce que le HCR fait aussi des clins d'œil aux dirigeants centrafricains pour voir ensemble comment résoudre ce problème? Parce que si le HCR s'intéresse simplement aux bailleurs de fonds ou bien à la RDC, ce serait difficile pour le HCR de mieux résoudre ce problème. Est-ce que le HCR fait aussi des clins d'œil aux dirigeants centrafricains? C'est ça ma préoccupation.
Le HCR a un bureau en Centrafrique de la même manière que nous avons ici et nos collègues sont au pied d'œuvre à faire des plaidoyers auprès des autorités de l'autre côté. Ils ne travaillent pas uniquement pour les réfugiés de l'autre côté. Même ici, en RDC, nous avons de temps en temps des contacts transfrontalières pour qu'on puisse être au parfum de ce qui se passe et on fait le plaidoyer ensemble. Une autre chose, nous faisons aussi des sensibilisations, surtout auprès de ces réfugiés qui sont avec nous ici. Il est bien évident qu'ils vont rentrer chez eux. Il y en a déjà qui avaient commencé à rentrer chez eux. 17 000 personnes avaient enregistré pour rentrer chez eux. On avait déjà commencé le mouvement. Et nous leur prodiguons le conseil de coexistence une fois qu'ils sont de retour chez eux. Effectivement, un travail dans lequel nous sommes engagés au niveau local pour faire le plaidoyer, au niveau de la RCA, et au niveau, bien sûr, de Genève, où le haut commissaire fait un plaidoyer acquis des droits, même y inclus à New York. Donc, nous couvrons toutes les bases autant qu'on peut, parce que nous avons aussi un élément du travail de venir avec des solutions ou de proposer du moins des solutions.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Quelques dates à retenir pour la semaine du 22 au 28 février. D'abord le 22 février, journée mondiale du scoutisme. 27 février, journée mondiale des ONG. Et enfin, 28 février, journée internationale des maladies rares. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver sur le site www.radiocapi.net. Radio Capi en un mot. Bob Landou était aux manettes techniques. Je suis Honoré Missenga Kalala. Merci de votre attention. Restez branchés pour la suite des programmes sur la radio de la paix. Ciao.